se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors,
on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurices. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Et c'est maintenant l'heure de parler cinéma, effectivement, pendant donc une heure. Et je ne suis pas toute seule, puisque je suis avec Claude. Bonsoir, Claude.
Bonsoir, Céline. Bonsoir à toutes et à tous.
Comment tu vas ? La voix, en tout cas, a l'air d'aller mieux.
Ça va à peu près, mais je pense que j'en ai encore pour plus d'un mois.
Ok, bon. On va aller mollo comme d'habitude avec la voix.
Oui.
Et donc, on commence par l'émission en parlant d'agenda. Et je vais proposer quelques dates, quelques événements que j'ai retenus et dont j'aimerais vous partager. Tout d'abord, ce week-end, enfin à partir de demain même, à Paris, à Montreuil exactement, il y a le Festival international des jeunes cinéastes 7e Lune au cinéma Méliès à Montreuil. C'est la 11e édition de 7e Lune et donc ça ouvre demain et ça se termine le 29 avril. Donc c'est un festival qui est consacré aux cinéastes de moins de 30 ans. Et c'est ouvert à tous les genres de films. Je conseille vivement, si vous êtes du côté de Montreuil ce week-end, ça peut être très intéressant. Et ensuite, plutôt localement, à Orléans, j'aimerais parler d'un concours de court-métrage. Claude, je pense que tu connais. C'est un concours qui est organisé par le Cinéma Les Carmes. Les trampolines du cinéma qui est réservé aux 15-25 ans qui réside en région centre et donc si vous avez moins de 25 ans et que vous avez réalisé un court-métrage fiction, documentaire ou clip, vous pouvez adresser votre film au Cinéma des Carmes avant le 27 mai. Et la projection des films retenus et les récompenses seront donc données le 14 juin à 19h au Cinéma des Carmes. Voilà en termes d'agenda. Je voulais peut-être aussi, on va pas beaucoup en parler, mais quand même parler du Festival de Cannes. Et oui, qui approche, et ce sera bientôt le sujet cinéma principal pour les prochaines semaines. Donc, festival qui est prévu en mai, et donc la sélection officielle est sortie.
Je ne la connais pas.
Eh bien, écoute, j'ai regardé rapidement, mais surtout, évidemment, c'est avec beaucoup de déception. Et bien sûr, sur les 22 films sélectionnés, eh bien, il n'y a que 4 films réalisés par une femme. 4 films sur 22. Quel dommage, alors que les éditions, enfin l'année dernière en tout cas, on atteignait presque la parité. Et là, c'est une chute. Voilà, c'est bien dommage. Mais j'aimerais quand même les citer, ces 4 films, parce que j'ai hâte notamment de voir le nouveau film de Andrea Arnold, Bird, donc qui fait partie de la sélection officielle. Mais il y a aussi The Substance de Coralie Farja, All We Imagine as Light de Payal Kapadia, Diamant Brut et Diamant Brut de Agathe Redinger. Voilà, ça fait pas beaucoup comme film, mais on pourra reparler du festival.
Et les autres films sélectionnés ?
Bah, si tu veux, un peu les noms habituels, Coppola, Cronenberg. Alors quand j'ai Coppola, c'est français.
Coppola, j'en avais entendu parler, oui.
C'est le père, hein, évidemment. Cronenberg, Adana Vicius, Christophe Honoré, voilà, un peu Gilles Lelouch, un peu les habitués.
Rassure-moi, est-ce qu'on a un Dardenne ?
Non.
Alors on a un Ken Loach ?
Non plus.
Ah, c'est une année exceptionnelle.
Mais il y a un Jacques Audiard. Ah, oui. Si ça peut. Il y a, ah, il y a un Miguel Gomez que j'ai bien hâte de voir aussi. Et après, il y a aussi un Serebrennikov, Kirill Serebrennikov, le dernier aussi, qui peut être intéressant. Il y a le dernier Sorrentino. Bon, voilà, des noms qu'on entend assez souvent. Et en film d'ouverture, eh bien, c'est le dernier film de Quentin Dupieux. Voilà, le deuxième acte qui sera en hors compétition, donc. Voilà, mais c'était pour en parler brièvement, parce que je pense qu'on en parlera, dans les prochaines émissions. Et eh bien voilà, après cet agenda, tu as peut-être quelque chose à rajouter, Claude ?
Oui, pour les trampolines, donc jeunes de moins de 25 ans, sautez sur vos caméras et filmez, il est encore temps, puisque la remise des copies n'est que pour le 27 mai. Je vais parler d'un festival auquel j'ai assisté, voilà, 15 jours, 3 semaines, peu importe, de début avril, que je connaissais mais que je n'avais pas fréquenté, à mes grands regrets, parce que je ne sais pas combien de fois je pourrais encore retourner, mais qui est un festival, moi, que j'ai trouvé extrêmement convivial. C'est le Festival du Moyen-Métrage de Brive.
Mmh. Oui.
Et donc, ce sont des films de 45 minutes. Alors, paraît-il que pour cette année, exceptionnellement, mais ça avait déjà eu lieu, où il y avait beaucoup de jeunes qui présentaient soit des films d'école, soit le premier... moyen-métrage qu'ils avaient fait, contrairement à des courts-métrages. Il y avait Tony Salvador qui était là pour un film qu'il avait commencé voilà 10 ou 15 ans, puis qu'il a rallongé pour faire 45 minutes. C'est un bricolage pas possible, je me demande ce qu'il faisait là. Bref, ce festival était présidé par Thomas Chabrol, qui est un des fils de Claude Chabrol, qui est acteur, réalisateur, et qui est d'une discrétion, une discrétion extrême, mais qui est un très grand connaisseur du cinéma et un érudit par ailleurs. Donc très bien présidé, et j'ai eu la confirmation, puisque j'ai rencontré plusieurs productrices, pas rencontré de producteur, j'ai rencontré que des productrices, dont une, qui est productrice, sa société s'appelle Les Eaux Vives, a fait beaucoup de productions internationales. Et, chose curieuse, une anecdote, elle me dit, vous auriez voté pour quel film ? J'ai celui-là. Elle me dit, oui, moi aussi, mais j'aurais fait changer la fin. Parce que les producteurs, bien évidemment, changent les fins ou modifient les... Moi, je veux bien, mais est-ce que je dois la rappeler à ce sujet-là, parce qu'elle n'a pas eu le temps de m'expliquer la fin qu'elle aurait fait. Est-ce que pour autant, les films sont revus par les producteurs ? Bon, sont de meilleures factures que s'ils n'avaient pas été revus. Je me souviens de ce film consacré à Angers, iranien, où tout le monde lui disait « ta fin ne va pas ». Il dit « oui, mais ce n'est pas la mienne, c'est celle du producteur ». Peut-être qu'il faudrait être plus prudent pour les producteurs. Et puis...
Ça dépend là-dessus. Enfin, ça oui, dépend c'est... Oui, oui. Des fois, vaut mieux que le producteur, la productrice intervienne sur certains films. Ça dépend.
Mais on peut faire ce qu'a fait... le film, ce qu'a fait Emmanuel Finkel pour Je ne suis pas un salaud, il a tourné deux fins, et puis il a fait venir des spectateurs avertis, et ils ont choisi cette fin-là, et c'est cette fin-là qui accompagne le film. Je préfère ces méthodes-là que le réalisateur, on en veut pour Xavier Legrand, qui avait fait Avant qu'il ne soit trop tard, qui avait été consacré d'ailleurs à Brive, film de 45 minutes, qu'il avait étiré ensuite à une heure et demie, vient de faire un nouveau long métrage où le producteur lui dit « tu modifies ça ». C'est Xavier qui en parlait dernièrement, je ne sais pas s'il en a parlé ici, mais il m'en a parlé. Il a été intransigeant, il n'a pas écouté le producteur, et son film n'a pas fait 15 jours dans les salles. Donc, je veux dire qu'ils interviennent, je veux bien, mais il faut que ça soit à bon escient, et il faut que ça soit avec mesure. Par contre...
Oui, alors ils peuvent se tromper comme les réalisateurs.
Comme un réalisateur.
Oui, voilà. Non, bien sûr.
Mais prendre les décisions à plusieurs, c'est pas mauvais non plus. Et alors, le prix de la presse, là je ne peux pas m'empêcher de ne pas en parler, était rendu public, c'est-à-dire les délibérations des trois journalistes étaient rendues publiques. Et j'ai trouvé cela affligeant, mais vraiment affligeant, parce que j'avais déjà posé la question à Thierry Frémaux, j'ai posé la question à Antoine Debecq. Thierry Frémaux me dit, mais monsieur, la critique, ça n'existe plus, il n'y a plus de critique cinématographique. Ça m'a été confirmé aussi par, à chaque fois que je pose la question à un garçon des Cahiers du cinéma qui fait des films maintenant, qui me dit, pardon monsieur, critique cinématographique, mais là longtemps que ça n'existe plus. Bon, et là, quand même, il y avait une journaliste de The Independent, enfin correspondante de The Independent en France, il y avait un garçon des Incorruptibles, puis l'autre journaliste, je ne sais pas d'où elle était. Ils ont quand même réussi à parler d'un film qui n'est fait que sur le hors-champ. C'est-à-dire, c'est un film qui est très bien fait, qui est un film d'une...
Tu connais le titre ?
Non. Je retrouverai le titre qui est fait par une réalisatrice qui a déjà fait des longs-métrages, qui a fait un moyen-métrage de 45 minutes, mais qui a beaucoup joué dans les films de Romer. Elle a joué dans les films de Romer. Et on voit très bien qu'est-ce que c'est le film. Je fais le pitch très rapidement. C'est un père avec sa fille qui part en vacances chez des copains dans les Cévennes, où sa fille va retrouver des garçons de son âge. Et on voit très bien, mais on voit très bien qu'il y a eu, que c'était un père incestueux, qu'il y a eu un inceste. On voit. Et elle fait que du hors-champ, c'est-à-dire elle fait exister quelque chose que vous ne verrez pas. Et dans cette sélection, d'ailleurs, il y a deux films. Une, pareil, alors là, le chef-op, il est très bon, mais dans ce film s'appelle Non-Loyauté.
Okay.
Recherche Non-Loyauté. Et vraiment, elle sait faire exister le hors-champ, elle sait faire exister ce qui a existé, mais qu'on ne verra pas. Et on le voit. Alors que l'autre n'avait pas réussi à faire ça parce que, bon, c'était un premier film, pas réussi. Ils ont quand même réussi à chroniquer ce film sans prononcer le mot hors champ. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais je vous dirai pas la suite parce qu'on est au micro, mais je te dirai la suite ensuite, Céline. Mais j'ai trouvé ça affligeant. Et des films, alors, on m'a demandé ce que vous auriez récompensé. J'étais le film. Mais monsieur, ça a déjà été fait. Oui, ce film sur ce thème-là a déjà été fait. Mais quels sont les films qui n'ont pas déjà été faits? Mais on peut faire des films. C'est même donné dans les écoles. On donne un thème et vous ferez des films sur le même thème. Bien sûr, mais ils vont pas le faire pareil. C'est pas le même film. Enfin, moi, je suis sorti. Il n'y a pas que moi qui est sorti affligé. Je t'en parlerai en privé, mais bon. Voilà où en est l'état de la critique cinématographique qui, paraît-il, au dire des spécialistes, n'existe plus.
Oui.
C'est vraiment un coup de gueule, là, parce que c'est plus possible. Donc, on va peut-être parler des films.
Eh bien, des films qu'on a pu voir, effectivement, au cinéma dernièrement et qui sont encore à l'affiche. Et donc, on vous donnera peut-être envie d'aller en voir certains. Ou pas. Et donc, est-ce qu'on peut, juste avant de commencer le premier film, écouter un petit morceau de musique?
Oui, et peut-être je te proposerai la musique du film Le mal n'existe pas, puisque c'est le départ du film.
Alors oui, c'est ce que je voulais aussi, sauf qu'elle est introuvable en ligne, enfin où j'ai mal cherché peut-être.
C'est possible que ce soit.
Mais effectivement, c'est une compositrice Eiko Ishibashi qui a composé donc la musique du film Le mal n'existe pas. Et elle a aussi composé la musique de son précédent film Drive My Car. Et du coup, je vous propose d'écouter un morceau de cette bande originale en remplacement avant qu'on parle du film Le mal n'existe pas, et on se retrouve tout de suite après.
On se fait un film.
Oups, pardon, c'était pas la même bande son. Je reviens. Eh bien, j'ai un souci avec le son qui ne sort pas. Eh bien, du coup, je vous propose... Tant pis pour la musique. On va reprendre. Oui, Claude, désolé, le son ne sort pas. Eh, mais si, ben voilà. Voilà. On reprend après ce morceau. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et nous venons d'écouter un morceau de la bande originale du film Drive, My Car, du réalisateur japonais Ryosuke Hamaguchi et qui a été composé donc par Eiko Ishibashi, qui est donc une compositrice japonaise qui travaille beaucoup avec ce réalisateur. Et effectivement, la musique est très importante. Donc, dans le film, Le Mal n'existe pas, qui est donc actuellement à l'affiche. Et d'ailleurs, c'est l'origine même du film. C'est ce que j'ai lu. Effectivement, on ne le sait pas forcément en regardant juste le film, mais en s'informant, c'est effectivement à partir d'un ils ont réalisé un ciné-concert. Donc sur le travail musical de Eiko Shibashi, Hamaguchi, donc le réalisateur a travaillé sur un film muet. Donc vraiment pour un projet très spécifique, et à partir de ce film muet, il en a fait donc un long métrage, Le Mal n'existe pas. Film qui a reçu le Lion d'argent et le prix Fipreski à la Mostra de Venise. Voilà, qui a eu une belle reconnaissance. Et donc ce film se déroule au Japon de nos jours. Dans un village, un petit village au fond d'une forêt où les habitants vivent vraiment en harmonie avec la nature, et ils voient arriver un projet de glamping, donc un camping glamour qui souhaite s'installer donc dans leur village et qui donc va grandement affecter les villageois. Voilà pour le pitch. Alors c'est un film qui prend son temps. Hamaguchi, il est comme ça. Il aime effectivement faire des plans où il se passe beaucoup de choses et parfois rien. Et là c'est beaucoup contemplatif. Il y a très peu de dialogue en tout cas sur une bonne partie du film. Et c'est très beau, en fait. C'est vraiment, on plonge dans ce village, dans cette beauté, dans cette nature. Et donc, il filme longuement cette ruralité et vraiment le lien entre l'humain et la nature. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup pensé au cinéma de Kelly Reichardt dans sa façon d'aborder les personnages. J'ai beaucoup apprécié. Et ce film, c'est aussi, je pense, un plaidoyer du vivre ensemble, en fait, de comment ces villageois vivent ensemble avec la nature, mais aussi comment ils s'entraident, ils travaillent ensemble. Et donc ce projet de glamping peut vraiment rompre cet équilibre, et c'est ce que nous montre la scène qui est très intéressante sur la réunion publique avec les deux représentants du glamping, et c'est cette scène où il y a les discussions, il y a très peu de dialogue, mais quand il y a un dialogue, ça dure, il y a des longues répliques, mais très justes, très, qui donnent tous les éléments. Très argumentées, c'est ça, effectivement. Et donc ça c'est ce projet qui montre, ce projet glamping qui montre vraiment le désintérêt total pour la nature, pour ce qui, en fait, c'est le capitalisme total qui se fiche de là où il s'installe. Voilà, et pour finir, justement, pour finir, la fin du film est très énigmatique. Voilà, on peut, chacun se fait un peu sa fin, mais voilà, ça peut être un peu étrange, mais ça me déplaît pas non plus de me créer moi ma propre, enfin voilà, chacun imagine sa propre fin, mais c'est quand même un très bon moment à passer, je trouve.
Alors, je suis d'accord avec la première partie, parce que je considère que dans ce film, il y a deux parties, mais j'aimerais savoir la fin que tu as vue.
Enfin,
la fin que tu t'es fabriquée, et je comprends qu'on puisse se fabriquer une fin.
Ah oui, mais alors est-ce qu'on va, du coup, on va révéler... Moi, j'ai la sensation, sans essayer de trop révéler, qu'il y a... en fait, il protège, à la fin, il protège la nature en premier. Et c'est pour ça qu'il est... que son binôme... Enfin, je ne veux pas non plus trop dire de choses.
Si tu peux, parce que de toute façon, les gens comprennent pas la fin. Donc, tu peux y aller.
Eh bien... pour moi, il se bat donc avec l'un des représentants du glamping. Oui. Il se bat justement en priorité pour pas qu'il intervienne sur ce qui se passe, sur la nature. Enfin, il protège en priorité la nature et sa fille, donc qui est là au milieu. Alors c'est là où on peut se faire voilà sa propre fin. Pour moi, elle s'est pris une balle. Pour moi, elle s'est pris une balle et il y a ce cerf qui est à côté. Alors, en fait, il y a un côté un peu imaginé et...
On part un peu dans le fantastique, là.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai... Pour moi, il y a le moment où elle est encore debout. Là, c'est pas le moment réel. Pour moi, le moment réel, c'est quand elle est couchée seule. Et que la balle qui est prise par le cerf, enfin ce qu'on voit, la balle, pour moi c'est la jeune fille, la petite fille qui a pris la balle.
C'est une fin qui est plausible, sur laquelle je peux souscrire.
Et toi, t'en as... Toi,
moi, j'ai parlé le départ, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire c'est merveilleux le début. Le début, et cette osmose avec la nature, je suis dans la campagne, donc je connais un peu. Alors, il y a beaucoup de travelling dans la forêt. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire des travelling dans une forêt, à part caméra à l'épaule, je ne vois pas bien. Mais on voit très bien ces gens qui vivent, le vivre ensemble avec la forêt, c'est très bien. La lenteur ne m'a absolument pas gêné. Au contraire, on s'imprègne des images, on s'imprègne de la nature. Et ma chose, je trouve ça très bien. Je reproche quand même pour quelqu'un qui fait un film sur la nature, c'est qu'on n'entend pas assez les bruits de forêt. Une forêt, ça vit. Il y a des bruits dans une forêt. C'est les craquements des arbres. Ça, on n'entend pas. On n'entend pas. Et ça, pour
la
quelqu'un...
La musique est plus présente. C'est la musique qui...
la musique. Ben, on ne met pas de musique. On fait vivre la forêt. Et la musique, c'est la musique de la forêt. Alors déjà, pour quelqu'un qui veut... Pour une personne, pardon, qui veut faire vivre la forêt, il oublie la musique naturelle de la forêt. Et il y a une musique naturelle dans la forêt. Il y a des craquements, il y a des bruits des animaux.
C'est un choix.
Il y a plein de bruits dans une forêt. C'est pas silencieux, une forêt. Et puis arrive cette fameuse réunion dont tu parles, avec des gens extrêmement posés, le seul qui veut, je veux dire, s'interposer, il est vite ramené à la raison. On est chez les Japonais, que tu connais bien, donc on ne fait pas de vagues. Et les vraies questions sont posées. Donc je me dis, à partir de là, on va voir un film où on va voir le capitalisme plus ou moins sauvage s'affronter à un écosystème avec, effectivement, vraisemblablement, avec des conséquences très importantes qui vont faire basculer carrément cette communauté qui vit là, avec les eaux, tout tourne autour, en fait, de l'évacuation des eaux sales et d'un comment ça s'appelle, d'un réservoir qui doit... Bon, c'est, là, on part là-dessus, et après, on part sur un autre film qui, et là, je veux dire, il ouvre des portes, puis après, ces portes, il en fait... T'as raison pour ton interprétation. On part dans une métaphore après.
Mais c'est un peu comme son précédent film. Alors, j'ai pas vu Drive My Car. Je l'ai pas vu malheureusement. Mais par contre, il y avait Conte du hasard et autres fantaisies qu'il a sorti la même année. Et c'est un peu pareil, effectivement. Alors c'est plutôt des histoires indépendantes, mais c'est comme tu dis, d'ouvrir des portes. Et en fait, finalement, tu passes d'une porte à une autre.
Et oui.
Effectivement. Alors Drive My Car, je ne l'ai pas vu.
Mais c'est un peu pareil, avec plus, je veux dire, plus explicite, plus lisible. Parce que là, à la fin, tu as trouvé une fin. Moi aussi, je me suis posé la question si la petite fille n'était pas morte. Je vois le cerf. On est dans la métaphore, là. Et puis, cette bagarre qui existe avec ce garçon entre l'homme de...
Du projet Glamping, le représentant.
Oui, qui se fait agresser. Mm-hmm. J'ai pas bien compris. Alors, il agresse le citadin alors
Il l'agresse bien.
Il l'agresse bien alors que le citadin n'est pas forcément contre eux. Il est.
Pour moi, il combat le capitalisme en fait.
Oui. Donc, c'est plutôt un allié. J'ai pas bien compris ce geste.
Ah, mais alors. Pour moi, pour moi, je suppose que le représentant représente le capitalisme.
Oui, il représente le capitalisme, oui.
Et du coup,
mais pas d'une façon...
il agresse le capitalisme.
Oui, il agresse le capitalisme. C'est pas très explicite, la métaphore n'est pas des plus à droite non plus. La métaphore de la fin avec le cerf là-bas, là, oui, c'est, je veux dire, une vraie métaphore. L'autre, je ne sais pas. Et moi, je vais terminer en disant, c'est un film qui se perd dans la forêt.
C'est bien aussi de se perdre dans la forêt, dans la nature,
oui,
c'est aussi
c'est
plaisant.
C'est un film qui se perd dans la forêt.
Mais je comprends que ce n'est pas un film très accessible, hein, effectivement. Il n'est pas simple.
Il n'est pas simple, ou alors il n'a pas su mettre en valeur son intention. Mm-hmm. Pour moi, l'intention, ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça, Céline, l'intention au cinéma, c'est quand même quelque chose de... C'est le fil conducteur, l'intention. Et autant l'intention est posée dans cette réunion où c'est très clair, on va voir un affrontement entre des très raisonnables, je veux dire, avec on voit bien que du côté des habitants de cette forêt, de cette communauté, c'est très clair, ils savent de quoi ils parlent, on n'est pas du tout chez des écolos complètement excités, non, ils parlent vraiment de ce qu'ils vivent tous les jours, des conséquences que ce réservoir va avoir, cette évacuation des eaux, c'est en pente. Ils expliquent ça très bien face à des communicants, parce que c'est pas eux, eux sont qu'une agence artistique qui porte le projet. Et on voit très bien quand ils rencontrent le patron de l'investisseur, on voit bien que le type il est complètement, enfin.
Il est dans sa bulle,
il ne pense pas à ces problèmes-là, et d'ailleurs il ne fait qu'une proposition, qui est une proposition, je dirais, extrêmement à droite, de dire, eh bien, ça on peut le dire, ce garçon-là, on va lui proposer de devenir gardien de la réserve, parce que le glamping, c'est quasiment une réserve, quoi. Ils vont vivre entre eux.
Une réserve de riches.
Oui, ils vont vivre entre eux et pas de lien avec la communauté, de lien avec les gens. Enfin, je veux dire que, bon, ça va être vraiment quelque chose qu'on pose au milieu d'une communauté et qu'on, où il n'y aura pas de relations entre les deux communautés, on le voit très bien. Et lui trouve, bah, si vous allez le mettre comme gardien, comme ça, il nous foutra la paix. Bon. Et je pensais que c'était une bonne idée. On aurait pu partir sur est-ce qu'il va se laisser, se compromettre, pas se laisser compromettre. Il ouvre plein de portes sur un film et il part sur autre chose qui est un deuxième film. Pour moi, c'est un deuxième film. Mm-hmm. On part sur un deuxième film avec une fin que tu as vue qui est. Je me suis posé cette question qui est. Moi, je l'ai vu comme plutôt la fin de la communauté, quoi, la fin de. Si ça se fait, ce qui est la fin de la. Parce qu'on ne sait pas si ça va se faire, en fait, en plus.
Ah, effectivement.
Et on ne sait pas si ça va se faire. Mm-hmm. Donc, j'ai trouvé cette fin très énigmatique. Surtout l'agression. J'ai trouvé ça très énigmatique.
C'est surprenant, effectivement.
À la fin, effectivement, la petite fille, le cerf, le. Bon, c'est, j'allais dire, c'est plus lisible. C'est, on peut effectivement se poser cette question de la fin d'une communauté, enfin des villageois, qui, avec cet écosystème qui va complètement être saccagé, avec des risques de, j'allais dire, de pollution. Enfin, on est là dans un vrai problème. Et puis, moi, j'ai pas trop compris cette métaphore. Et alors, il a été récompensé, tu dis c'est à Venise, non ?
Oui, à Venise, oui.
Je ne sais pas ce qu'il y avait à Venise, mais c'est quand même pas un très très grand film.
Après, en termes de réalisation, il y a des choses intéressantes. Tu parlais des travelling, notamment.
Ah, travelling, oui, c'est intéressant. Mais je te dis, mais il ne fait pas vivre la forêt. Mais la forêt, on l'entend pas, la forêt.
Mais parce que c'était la bande-son. La bande-son, je veux dire, la bande composée par Eiko Ishibashi, pardon, qui justement, à l'origine, au départ du projet. Et donc, moi, je me dis que son film, à la base, c'est la musique.
C'est la musique, oui.
Qui a une place très, très importante.
Très importante.
Mais... Et d'ailleurs, les cuts aussi, les cuts qui sont très brutaux, qui... Mais c'est intéressant, ça aussi, ce choix d'interrompre brutalement, sans forcément de lien avec l'image. C'est,
oui,
je trouve ça intéressant.
Mais j'avais fait le même reproche à un type qui a fait, je crois, qu'un seul film, qui est prof à Paris 8, sur la Loire. Il colle de la musique, mais j'ai la Loire à elle-même. La Loire, tous sons qui sont... Quand vous êtes en bateau sur la Loire, on dit la Loire porte les sons. C'est vrai, il ne fait pas vivre ça.
C'est un choix.
Bah oui, c'est un choix où, si, franchement, la nature, c'est... Il y a une musique dans la nature. Et la musique de la Loire n'est pas la musique de la forêt, ce n'est pas la musique de la route, ce n'est pas la musique d'une plaine. Il y a d'autres bruits. Et ils n'utilisent pas ça, alors que c'est leur sujet. Je ne comprends pas.
Eh bien, on est bientôt quand même aux trois quarts de l'émission.
Oui.
On pourrait en parler encore.
Il y a un
encore.
Film qui me tient à cœur, je voudrais qu'on en parle.
Et est-ce que c'est Quitter la nuit ?
C'est Quitter la nuit.
Ah, très bien, parce que je te propose, avant d'en parler, d'écouter donc un morceau de la bande originale qui a été créé par un Montréalais, Ben Chemi.
Alors, il faut savoir que la réalisatrice, alors je ne sais plus si elle est belge ou...
Elle est belge, Delphine Gérard.
Oui, enfin... Son père, alors si elle est, sa mère doit être belge et son père québécois,
c'est ça.
Ou vice versa.
Mais c'est, t'as raison, c'était, ouais. Oui.
C'est, ben non, parce que je l'ai rencontré, donc je sais, et je sais d'où vient l'idée du film en plus.
Eh bien, on en parle juste après ce morceau.
Et je vous dis que le film dont je vous ai parlé, Nos Nouveautés, c'est Portal. Alexia Portal.
Alexia Portal, oui, donc le film dont tu parlais en introduction.
Nos Nouveautés, c'est Alexia Portal.
Ok, on écoute.
Géry chez Robert.
Très bien, on en parle juste après. Donc un morceau du film Quitter la nuit sur Radio Campus Orléans. Thank you. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans, on vient d'écouter un morceau de la bande originale Quitter la nuit, qui a été créé par le Montréalais Ben Chemi. Et donc, avec Claude, nous allons vous en parler. Donc, Quitter la nuit de Delphine Girard.
Premier film.
Et oui, premier long métrage, après donc son court métrage Une sœur, que je n'ai pas vu, mais qui est important vu que c'est la suite. Je crois avoir compris que Une sœur, c'est les 15 premières minutes du long métrage, apparemment.
Bon. Les 15 premières minutes viennent d'une émission, mais d'une écoute qu'elle avait eue d'un call center aux États-Unis.
Oui.
Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit.
Mais c'est ce qu'on a en fait au début du long métrage Quitter la nuit. Et alors déjà avertissement quand même, c'est que c'est un film qui parle de viol.
Exact.
Donc, pour les personnes qui sont sensibles, voilà, allez-y, mais avec la conscience qu'il y a des violences sexuelles. Donc, Quitter la nuit, c'est donc on commence le film avec donc une femme dans une voiture avec un autre homme, et en fait elle fait semblant d'appeler sa sœur pour appeler la police à l'aide, et je trouve que c'est hyper intelligent ce début de film, cette entrée en matière à la façon d'un thriller, ça nous embarque tout de suite dans le film. C'est très très bien filmé, très bien écrit. On se pose plein de questions, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, et ça c'est ça démarre le film vraiment, c'est très bien filmé, et donc après cette scène, c'est tout un travail sur la procédure judiciaire. C'est comment la victime, comment cette femme Ali qui a subi ces violences, qui avec la procédure judiciaire va subir un peu comme une double peine en tant que victime, mais parce que elle est une victime pas idéal pour la justice, et alors que en fait chaque victime est différente, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir trois points de vue, donc le point de vue de la victime, le point de vue de l'agresseur, de cet homme, et de Anna, cette policière qui prend donc l'appel dans la voiture, et en fait on voit dans toute cette durée du film l'impact psychologique en fait de, et elle va Delphine Girard va vraiment nous montrer dans la progression comment au quotidien comment ils vivent cette violence, que ce soit de la part de la victime, mais aussi de la part de Dari, cet homme qui a un déni total de ce qui s'est passé. Et subtilement, Delphine Gérard va aussi nous montrer elle remonte des flashbacks de cette scène dans la voiture, de ce qui s'est passé, et c'est vraiment intelligemment fait où nous, en tant que spectateurs et spectatrices de ce film, on va être un peu à la place aussi de la justice, en fait, parce qu'on découvre aussi les éléments petit à petit. En fait, on a nous aussi notre point de vue, et je trouve que c'est assez judicieux où on peut avoir une certaine ambiguïté sur ce qui a pu réellement se passer dans cette voiture, et parce qu'il y a comment Ali en tant que victime elle réagit, comment elle revient dans son quotidien, comment Dari donc cet homme, comment il raconte aussi ce qui s'est passé. C'est très très intéressant. Comment Daphine Girard le film, et pour avoir finalement pour savoir en fait ce qui s'est réellement passé. Donc on le sait nous à la fin, alors que la justice elle ne le saura jamais. Voilà, c'est parole contre parole. C'est là aussi qui est intéressant, comment la justice peut se positionner et comment les personnes s'en remettent de cette violence, que ce soit victime mais aussi l'agresseur, comment cet homme après le déni finalement réagit à ce qu'il a pu faire, et aussi Anna, cette policière, qui les choses sont pas dites, et c'est ça aussi, c'est très subtil, c'est que Daphine Girard ne dit pas tout, mais c'est tout est filmé subtilement, et aussi dans les dialogues, comment Anna, on sent qu'elle a aussi vécu une agression sexuelle. On sent pas.
Je te poserai la question après.
Ok, et je trouve que tout ça, c'est vraiment, c'est très subtil. On ne voit jamais la scène du viol, jamais. Mmh. Il y a pas de réel, enfin il y a qu'une violence, on ne voit que la violence psychologique, et c'est vraiment vraiment intéressant comment on s'interroge sur la place de la victime. Bon, je te laisse parler, excuse-moi.
Oui, non mais je t'ai écouté avec attention, parce que ce que tu disais effectivement pose bien le problème. D'abord, c'est un film sur l'ambiguïté, mm-hmm. qui n'est pas du tout manichéen.
Tout à fait.
Ils sont tous gris.
C'est ça qui
est, y compris la policière.
Oui.
Et effectivement, elle a été violée, violence. Mais elle trouve quand même le moyen, après avoir été violée, d'aller embrasser le garçon.
Oui, et eh bien juste, mais oui, oui, là, oui, je te laisse.
Ça, on peut se poser la question.
On peut, mais...
Et il y a une autre, des ambiguïtés, il y en a beaucoup. Notamment, elle va donc au tribunal porter plainte, enfin plainte chez la policière, et elle est prête à retirer sa plainte en disant, je vois pas à quoi ça sert. Mm-hmm. Et je comprends que le trouble qui est né suite à un viol peut effectivement, à la victime, faire ce choix de finalement ne pas porter plainte.
Elle sent qu'elle doit convaincre en fait la police qu'elle a été violée. Oui. Elle sent que elle ne sera pas écoutée. Et en fait, elle veut juste être ailleurs.
Oui, oui.
Et elle veut juste, je veux passer à autre chose. Je veux retourner dans mon quotidien.
Voilà, exactement.
Je veux oublier.
C'est une attitude.
Je veux me reconstruire.
Alors ça, j'ai pas pu interviewer la réalisatrice là-dessus, parce que elle repartait. Mais elle joue très bien je sais pas d'où elle tient son scénario, mais c'est un scénario qui est extrêmement solide et plausible.
Complètement.
C'est important. Et puis, tu parlais de la policière. Alors, toi, tu dis, elle a certainement été violée. J'ai pensé, effectivement, quelle est la policière, quel est le besoin elle a d'aller retrouver la victime. Ou, effectivement, elle a été violée, et c'est pour partager, et elles font la fête à la fin toutes les deux. Ou alors, c'est très malsain.
Ah non, moi je pense que
tu peux pas interpréter, tu ne
Alors moi je vais te le dire, enfin comment c'est filmé en fait, c'est comment déjà au départ ce qu'elle vit au téléphone, c'est qu'elle doit se faire passer pour sa sœur. En fait, il y a un lien qui se crée.
Oui.
Alors c'est vrai qu'il y a l'aspect peut-être professionnel où il faut qu'elle arrive à prendre de la distance. Normalement,
oui, tout à fait,
en tant que policière, elle doit prendre la distance. Mais c'est vrai que on la voit, en plus on la suit régulièrement quand elle revient dans son quotidien, Anna, cette policière. On sent que quelque chose la pèse, on sent qu'il y a quelque chose qui la travaille. Et ça, c'est tout dans les images, rien n'est dit.
Oui,
même
oui.
Jusque dans la voiture avec son beau-fils,
oui.
Où justement il lui pose cette question quand il parle d'histoire d'amour. on sent qu'il s'est passé quelque chose.
Oui, oui.
Et,
oui.
Et vu que, enfin, c'est le lien avec ce qu'elle a vécu au téléphone et le fait de l'avoir aidé, pour moi, c'est juste.
Alors, comme vous le savez, c'est ça où je voulais en venir. Ce film était présenté à Angers, c'est là où j'avais rencontré, et l'acteur. Et je l'ai rencontré de nouveau à Annonay. Ce film était en compétition à Annonay. C'est un film que j'ai défendu bec et ongles. Et c'est quand même un film sur les 9 jurés qui avait été cité 4 ou 5 fois et en deuxième ou troisième position. Et on attendait le résultat du vote des lycéens, sachant que le film qu'ils avaient choisi, sachant que ce film a déjà eu, ça s'appelle Dissidente, il va sortir prochainement, je vous en parlerai, il avait eu le prix du public. Donc s'il avait le prix des lycéens, on n'allait pas lui remettre un troisième. Et alors, arrive le vote, si Dissidente a le prix, on ne va pas lui donner un troisième prix, quel est? Parce qu'on avait le prix du jury, ça a été très, très facile, c'était, comment ça s'appelle, Yurt, le film, turc, qui vient de passer au Carme, là, qui y est peut-être encore. Et on avait le prix spécial à désigner. Je dis là, ce que je ne devrais pas dire dans les jurés. Et arrive ce vote pour ce film. Et je défends avec ce film, je le défends avec becs et ongles, ce film, je dis, et est un des responsables, le plus capé de tous, qui, je ne citerai pas son nom, mais considérait que qu'il avait une parole plus importante que d'autres, et me dit, j'aime pas cette femme. Je dis, moi non plus, je ne l'aime pas.
Cette femme, la victime ?
La victime. Mais je dis, bon, elle est très ambiguë, mais quand même, tu es dans une fiction ici. Faire un personnage aussi ambigu, ça demande de la créativité. Ça demande de la rigueur, ça demande un exercice. Tu peux pas dire que c'est parce que c'est le film que j'aime pas, mais on s'en fout que t'aimes pas. Ce film est un film extrêmement bien réalisé. Enfin, bon, et j'étais totalement désavoué. Il y avait une journaliste de SoFilm. Je dis Marine que je connaissais bien. Je dis, Marine, aide-moi bordel, je n'y arrive pas. Eh bien, il y a eu un vote. Et ce qui fait que ce film ne soit pas récompensé, c'est deux femmes qui se sont opposées à ce que le film soit récompensé. Alors, il y en a une que je dois avoir au téléphone sous peu, et l'autre, je vais la voir aussi, mais je veux savoir pourquoi elles ont voté contre ce film. C'est un film... À Angers, il n'a rien eu. C'est un film qui, je veux dire, est tellement certainement près de la vérité de ce qui se passe que les gens veulent pas. Ça rejoint le film de Christine Angot. Les gens veulent pas voir.
Ah, le film de Christine Angot.
Les gens veulent pas voir.
Oui, mais en plus, c'est que Delphine Gérard, elle désacralise la victime, en fait. Oui. Elle va vraiment donner, justement, une réalité de ce que peut vivre.
C'est pas pour les gens, c'est pas une vraie victime, quoi.
Alors, mais parce qu'on a un fantasme de ce que doit être une victime.
Tout à fait,
il faut qu'elle pleure, il faut qu'elle soit en tout, il faut qu'elle ait des blessures, il faut qu'elle saigne, et qu'elle ne s'en remette jamais. Et même si elle ne montre pas ça visiblement, mais elle est quand même détruite intérieurement.
Bien, elle est... la prof, quand elle dit, bon, c'est pas la peine de porter plainte, on voit bien que elle est complètement déshumanisée à ce moment-là. On voit bien, elle a des actes de violence. C'est pas par hasard qu'elle a des actes de violence dans la cuisine où elle détruit tout. C'est pas par hasard parce qu'elle se voit bien qu'elle n'arrivera pas à convaincre.
Mais surtout qu'on sait ce qui s'est passé à la fin.
Oui,
c'est
oui,
qu'on
oui.
sait réellement ce qui s'est passé.
Ah, moi, je dis que
c'est pas comme dans le film, dans l'anatomie d'une chute où on ne sait pas.
Non.
Là, on le sait. Oui. Là, on le sait. Donc, comment, enfin, c'est dingue de juger la réaction d'une victime. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'elle nous propose, Delphine Gérard, justement, là.
Oui, et moi, je dis que la composition des personnages, qui sont tous extrêmement très... L'acteur, moi, j'ai passé... il était à Annonay, donc j'ai pris des bières avec lui le soir. Et qui d'ailleurs est complètement dans le déni. Heureusement qu'il y a sa mère quand même qui est là. Mais c'est un film extrêmement complexe. C'est très fouillé. Tous les personnages sont fouillés. Mais faire ça, inventer des personnages comme ça, moi je dis que c'est quand même une réalisatrice qui maîtrise totalement, qui est créative sur le. Eh ben non,
elle n'est pas récompensée.
J'ai jamais pu le j'ai pas aimé ce film, on s'en fout. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi t'as pas aimé ce film. J'ai jamais su pourquoi t'as pas aimé.
Bon, on vous conseille vivement.
Je pense que c'est un film qui dérange beaucoup.
Oui, ça dérange, mais comme le film de Christine Angot dérange aussi. Voilà,
il dérange beaucoup, mais d'une façon beaucoup plus simple que là. Parce que là, on est dans la complexité. On est complètement dans la complexité.
Parce que c'est une fiction aussi, peut-être.
Ouais. Oui.
Et allez le voir, Quitter la nuit.
Oui, je crois que c'est terminé. Je crois que la dernière séance, c'est demain matin. Je l'ai vu deux fois, je voulais le voir une troisième fois. Je voulais vérifier certains points, mais je le verrai sur Canal+ ou autre. Mais c'est pour un premier. Ce film, je crois, va être très peu récompensé. Mm-hmm.
On arrive à la fin de l'émission.
On arrive à la fin, mais c'est. Je me suis battu, énervé pour rien du tout.
Au moins, il est sorti en salle, même s'il n'y a pas beaucoup de séances. Il n'y a peut-être pas beaucoup de salles.
C'est un film que j'ai recommandé. J'en ai parlé autour de moi. Il y a des gens qui sont allés le voir. L'écart ne m'était pas sûr de le prendre.
Bon, eh bien, tentez de voir peut-être une dernière séance ou sinon guettez sa diffusion sur les autres canaux. On vous laisse, mais restez toujours sur Radio Campus Orléans parce que après nous, c'est Chip Meadow qui vous passera du bon son. Nous, on se retrouve dans deux semaines.
Oui.
Mais quand même, la semaine prochaine, c'est toujours Alors on se fait un film de 19h à 20h sur Radio Campus Orléans. Et puis...